Mes seigneurs, mes pères, mes sœurs et frères, et l'unité de l'Église n'est pas un problème d'organisation. Nous parlons de l'unité pour signaler le nouveau mode d'existence que l'Église proclame, un mode qui se réalise et se manifeste dans chaque communauté eucharistique locale. Avant d'être exprimé comme évangile, annonce joyeuse, le témoignage de l'Église est un événement concret, l'événement d'un repas dont la réalisation constitue la communauté ecclésiale. Ce repas témoigne et manifeste un nouveau mode de réception de la nourriture, c'est-à-dire de réalisation de la vie. Réaliser la vie comme relation. Exister non pas comme individu qui se nourrit et agit pour conserver sa survie, sa perpétuation, sa domination, mais exister en tant que personne qui communie amoureusement son existence, qui existe parce qu'elle aime et puisqu'elle aime. L'Église n'est pas une religion. La religion est une nécessité individualiste, égocentrique. L'Église est l'existence comme communion. La religion est individualiste parce qu'elle est le produit d'une pulsion instinctive, d'une nécessité naturelle qui domine chaque individu de l'espèce humaine. Nécessité de neutralisation de la peur naturelle devant la mort, devant les transcendants inconnus. Nécessité de fortification de l'individu avec des certitudes révélées, des garanties juridiques de l'immortalité individuelle. L'Église a pris son nom de l'Ecclésia, du Dimos, de la cité hellénique, de l'Assemblée des citoyens. Les citoyens s'assemblaient à l'Ecclésia avant tout pour réaliser et manifester l'événement de la cité, c'est-à-dire de notre mode de coexistence. La cité, pour les Grecs anciens, n'était pas une cohabitation utilitaire, kinonia tis chrias, mais un combat en commun afin que la vie soit en vérité, soit une vraie vie, une vie réelle. Et l'Ecclésia des citoyens était la manifestation par excellence de cette réalisation politique de la vérité. La vérité pour les Grecs signifiait la réalité de l'être, la réalité de l'être, to ondos on. Ils reconnaissaient par expérience comme être réel la raison éternelle, incorruptible, inchangeable, qui forme les étangs et les rapports entre les étangs, les relations logiques d'harmonie et de beauté qui constituent l'univers en cosmos, ornement réel. La cité, la polis et la vie politique étaient les lieux du combat volontaire de tous les citoyens pour constituer la collectivité selon la logique, le mode de l'être réel, mode de la vérité, logique des relations d'harmonie et de la beauté. Même pour les chrétiens, la vérité ne renvoie pas à des informations valables, mais au mode d'existence de l'être réel. Mais l'être réel, selon l'expérience ecclésiale, ce n'est pas la rationalité a priori et inexplicable de l'ordre cosmique. L'être réel, la vraie existence qui ne connaît pas de limitations du temps, de l'espace, de la corruption et de la mort, c'est la communion des personnes du principe causal trinitaire de l'existant. Le mode d'existence de Dieu trinitaire, c'est le mode de la liberté par rapport à toute nécessité et toute prédétermination. C'est la liberté illimitée de l'amour. le Dieu des chrétiens est amour. L'amour s'est signalé dans l'Église dès les premiers instants de sa présence historique comme liberté illimitée de l'existence par le biais des trois mots qui définissent le principe causal trinitaire de l'existant, les mots Père, Fils, Esprit. Libre de toute nécessité et de toute prédétermination de son existence ineffable, Dieu le Père existe parce qu'il veut exister et sa libre volonté hypostasie fait hypostase son être en donnant naissance à son, esprit, à son Fils et par la procession du Saint-Esprit. Père, Fils, Esprit sont des mots du langage humain qui signifient non pas des existences individuelles, comme d'habitude les noms des individus, Pierre, Paul, Jean, etc., mais des unicités hypostatiques qui existent en relation, des existences qui ne renvoient pas à elles-mêmes, elles renvoient chacune l'une à l'autre, liées par l'amour. L'événement ecclésial vise alors à atteindre ce mode de vie trinitaire, un mode d'amour, le mode de la vraie existence. L'Église veut réaliser cette unité qui a comme maître la Sainte Trinité, comme dit saint Isaac le Syrien. Nous comprenons cette unité surtout comme communion au même calice, comme recherche de la vie en tant que communion d'amour, communion de recherche qui constitue le corps de chaque communauté eucharistique locale. Et l'expérience ecclésiale témoigne du fait que cette unité, en tant que mode d'existence, constitue également un seul et unique corps de toutes les églises particulières, locales. Elle constitue l'Église comme réalité universelle. L'unité du corps universel de l'Église se réalise en tant que participation en commun de tous les chrétiens au même calice de l'Eucharistie, c'est-à-dire au même mode d'existence. La manifestation de cette unité réelle est servie par une institution concrète, le synode des évêques. Il faut ici définir en deux mots ce terme. Le synode des évêques n'a rien à voir avec une réunion des directeurs d'une entreprise ou d'une société. D'abord parce que l'évêque n'est pas le chef ou le dirigeant d'une communauté eucharistique, mais son père et son serviteur. Et en plus, parce que le synode est un prolongement du sacrement de l'Eucharistie, un prolongement du mode d'existence eucharistique. Chaque évêque qui s'exprime au sein du synode épiscopal ne parle pas pour exprimer ses propres pensées, ses opinions et ses constatations, sa sagesse personnelle, sa compétence théologique, sa piété, ses vertus. Non. L'évêque parle au synode comme témoin de l'expérience de la communauté eucharistique au service de laquelle il a soumis son être. Il n'exprime que l'expérience du combat par lequel sa communauté participe au mode d'existence eucharistique. Étant donné que la participation au calice de l'Eucharistie est la réalisation de changements du mode d'existence, il en est de même de la participation des évêques au synode. C'est la réalisation et la manifestation du mode qui libère l'existence du temps, de l'espace, de la corruption et de la mort, du mode qui constitue la réalité existentielle de l'Église partout sur la terre. Et tout comme il est inconcevable qu'au repas eucharistique grec, russe ou français, communie chacun à des aliments différents et pas au même pain et vin de la table commune. De même, au sein du synode, il est inconcevable que chaque évêque vienne avec ses intérêts individuels ou nationaux. C'est que l'Eucharistie et le synode épiscopal ont en commun, c'est d'offrir la possibilité de changer le mode d'existence, de manifester l'espoir de la victoire sur la mort. La falsification de cet espoir est une lourde responsabilité. Quand les évêques des différentes églises locales célèbrent ensemble l'Eucharistie, il y en a toujours un seul qui préside la célébration, à l'image de la monarchie du Père, qui est la condition de l'unité de la Trinité. Il en va de même au synode. Il y a toujours un seul évêque qui préside, jamais plusieurs, jamais alternativement. Présider au synode n'est pas un pouvoir, c'est un service en faveur de la réalisation de la vraie vie. Comment définit-on qui doit présider chaque synode des évêques? L'expérience ecclésiale des 15 premiers siècles a contribué à former le système dit système métropolitain. À chaque synode régional, présidait l'évêque de la plus grande ville de la région, de la ville mère, en grec métropolis. Cet évêque prit le titre de métropolite. Il était responsable de l'évêché ayant la population la plus nombreuse. Il avait par conséquent les capacités pour répondre aux responsabilités les plus grandes et probablement aussi l'expérience pour gérer les problèmes les plus compliqués. Au synode des évêques de toute une province de l'Empire romain, unifié de l'époque, présidait l'évêque de la vie capitale, Rome en Occident, la Nova Roma, Nouvelle Rome, Constantinople en Orient, Alexandrie en Égypte, Antioche au Moyen-Orient. À ces quatre évêques, des plus grands centres administratifs de l'Empire, qui ont été appelés patriarches, on y a ajouté, pour des raisons honorifiques, l'évêque de Jérusalem. Le critère pour désigner les cinq patriarches qui formaient l'institution de la pentarchie, comme on l'a appelé, sur laquelle l'unité visible de l'Église universelle était fondée, ne tenait pas seulement à la capacité d'exercer la présidence des synodes comme service eucharistique. Le critère était également fondé sur la réalité qui fait que ces cinq villes de l'Empire se sont avérées les centres les plus grands de la vie ecclésiale, de la pensée théologique, de la vie liturgique, de la création artistique ecclésiale. Nous distinguons jusqu'à nos jours, dans la théologie, la contribution féconde de l'école d'Alexandrie, comme l'on distingue également l'apport de l'école d'Antioche, pourtant très différente. Au niveau de l'art chrétien, nous reconnaissons les sommets atteints par l'école de Constantinople, ainsi que l'apport de la tradition de Jérusalem pour ce qui est de la formation du culte ecclésial. L'unité de l'Église universelle s'est brisée en morceaux lorsque le nationalisme parvint à s'imposer comme axe de cohésion politique de peuple. Dans une première étape, l'ambition d'une nation qui cherchait à constituer un empire a souvent été accompagné de la prétention de voir reconnaître à son Église nationale le rang de patriarcat. L'étude de ces liens entre l'idée de l'Empire et le désir d'instauration d'un patriarcat national serait vraiment fascinante. Il n'y a qu'à prendre des cas comme celui de Charlemagne, 9e siècle, du roi de Bulgare Siméon, 10e siècle, du roi des Serbes Étienne Duzan, 14e siècle, du tsar russe Ivan III, 15e siècle. Dans une deuxième étape, au 19e siècle, le morcellement de l'unité ecclésiale selon des critères ethnophylétiques s'est accompli de façon implacable. L'un après l'autre, les peuples orthodoxes des Balkans se sont libérés du joug ottoman et ils ont construit des États qui copièrent le modèle caractéristique de la modernité occidentale de l'époque, celui de l'État-nation. C'est qui les a conduits aussitôt à exiger également l'indépendance ecclésiale. Ils ont donc choisi de sortir du système de la pentarchie patriarcale et, dans la majorité des cas, à être reconnus à leur tour comme patriarcat, entraînant ainsi l'aliénation de leurs églises locales en religion d'État national. Il y avait déjà eu un précédent à la fin du XVIe siècle avec l'adoption du titre de patriarche par le métropolite de Moscou, pris de force en 1589 et qui coïncide avec l'émergence des ambitions de Moscou de se voir reconnu comme la troisième Rome. Il y eut plus tard, au XIXe siècle, la constitution du nouveau royaume des Hellènes au sud de Balkan, un État qui laissait en dehors de ses frontières les 4/5 de la population grecque de l'Empire ottoman et dont l'Église se trouvait arrachée du patriarcat œcuménique pour se proclamer Église autocéphale. Puis vint l'autocéphalie de l'Église serbe à 1879 et l'octroi du rang de patriarcat à cette Église nationale à 1920. De 1855, l'Église des Roumains s'était proclamée elle aussi autocéphale et à 1925, elle fut à son tour élevée au rang de patriarcat. En 1937, c'est l'Église d'Albanie qui fut reconnue autocéphale et en 1945, l'Église de Bulgarie, laquelle en 1953 devint patriarcat. C'est de cette façon que l'orthodoxie, qui était synonyme autrefois de la catholicité ecclésiale, finit par être comprise avant tout, et c'est là jusqu'aujourd'hui, comme une religion nationale, une entité idéologique autonome dans chaque État historiquement orthodoxe. Ainsi, l'orthodoxie en est venue à s'identifier avec des particularités historiques de chaque nation, avec les aventures politiques et les ambitions de chacune. Elle est devenue un élément supplétif de l'idéologie d'État dominante. Le terme patriarcat n'a plus aucun sens ecclésial aujourd'hui. Il est sans aucun rapport avec les contenus qu'il avait dans le cadre synodal de la pentarchie. Il désigne des institutions administratives plus ou moins sécularisées. Personne ne comprend plus ce que signifie la confession de foi selon laquelle que l'unité de l'Église est un mode d'existence et non pas un mode d'organisation administrative. Pourquoi l'unité est l'évangile incarné de la victoire sur la mort et non pas une organisation idéologique et disciplinaire uniforme qui copierait le modèle du Vatican. Force est de constater que, bien souvent, tant les pasteurs et les théologiens de nos églises orthodoxes nationales développent une ecclésiologie orthodoxe surprenante qui, aujourd'hui, n'est qu'une utopie irréalisable. Nous vivons réellement une tragédie. Cette tragédie atteint son point culminant en dehors des pays dits orthodoxes, c'est-à-dire dans la diaspora orthodoxe. Personne ne refuse le besoin d'avoir dans la même ville des paroisses orthodoxes de langues différentes. Mais le fait d'avoir des évêques différents pour chaque langue, c'est-à-dire pour chaque nationalité différente dans la même ville, constitue une négation de l'Église. Comment pouvons-nous nous appeler frères et sœurs si nous avons chacun un père différent? Le problème ne peut pas être résolu par des appels au bon sentiment ou par des exhortations morales. Le nationalisme n'est ni une erreur de l'esprit, ni une faute par rapport à la règle de la morale chrétienne. Il est la négation même de la vérité de l'Église, la religiosisation de l'événement ecclésial. Par cette commémoration du 40e anniversaire de la fondation du Comité interépiscopal orthodoxe en France, nous rendons honneur aux pionniers de ce mouvement, afin que l'unité de l'Église comme évangile incarné ne soit pas oubliée. Cet anniversaire alors deviendrait réellement une fête, une source de joie, s'il marquait vraiment le début d'un engagement de tous les orthodoxes en France et de leurs évêques avec un double objectif. Premièrement, que l'Assemblée des évêques qui a succédé au comité interépiscopal prend son vrai nom ecclésial, celui d'un synode local, avec la fonction d'un synode et un président de synode. Et deuxièmement, qu'un engagement de tous permette que la représentation des orthodoxes auprès des autorités de l'Union européenne à Bruxelles soit une et unique, afin de manifester l'expression et le symbole de notre unité ecclésiale réelle et pas une représentation divisée comme aujourd'hui en petite boutique nationale, ce qui est franchement ridicule. Merci.